Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, fête ses 50 ans en décembre 2011. L'occasion pour nous, dans cette émission, de revenir sur les moments forts du CNES, qu'il s'agisse de l'installation du chantier à Kourou, en Guyane, du lancement de la première fusée Ariane ou encore des premiers vols habités. Pour nous en parler, nous accueillons dans cette émission un invité que vous connaissez sur Canal Académie. Il s'agit de Jacques Blamont. Monsieur, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Je vous présente, même si nos auditeurs vous connaissent, vous êtes membre de l'Académie des sciences en France, mais également membre de la National Academy of Science aux États-Unis et membre de l'Académie des sciences indienne, professeur émérite à l'Université Paris 6. Vous êtes actuellement conseiller du président du Centre national d'études spatiales, le CNES, et puis vous avez été le premier directeur scientifique et technique du CNES en 1962. Alors ensemble, on va aborder les grands moments du CNES et commençons, si vous voulez bien, par les débuts du CNES qui donc est créé en 1961. Dans quel contexte naît le CNES, Jacques Blamont ?
Le contexte était celui de la guerre froide. Il y avait deux grands de puissance, les États-Unis et l'Union soviétique, qui avaient lancé des satellites et tout le monde croyait qu'il fallait être un grand pour pouvoir lancer des satellites et qu'un petit pays ne pouvait pas. C'était au-dessus de ses forces, c'était monstrueusement difficile. Quelques-uns d'entre nous n'étaient pas de cet avis. Et en particulier, l'organisme qui avait été créé par le général de Gaulle pour mettre au point les fusées de sa force de frappe, qui s'appelait la CEREB, Société d'études et recherche d'engins balistiques, la CEREB était convaincue que les engins qu'ils allaient fabriquer permettraient de mettre en orbite 50 kilos. Ils ont fait circuler une note qu'ils avaient écrite, où il y avait effectivement les calculs, les résultats des calculs que je viens de vous indiquer. À travers le ministère de la Défense, c'est parvenu jusqu'au général de Gaulle qui a pris deux décisions concomitantes en août 61. Premièrement, oui, la France utiliserait les fusées de sa force de frappe pour mettre en orbite un petit satellite, et ce sera le programme Diamant. Mais ce programme serait accompagné par une structure que le gouvernement voyait comme une sorte de bureau d'études et qui a été le CNES. Ceci est entré en vigueur tout de suite. Le CNES, donc, a existé le 1er mars 62. J'en étais, comme vous l'avez dit, le premier directeur technique et scientifique, c'est-à-dire que j'avais tout à faire, il n'y avait rien. On ne savait pas ce que c'était qu'un satellite. On n'avait pas la moindre idée. Pas la moindre idée de la façon dont ça marchait. Donc, il fallait créer une compétence, non seulement à l'intérieur du CNES, mais aussi dans l'industrie française et européenne. La première chose que nous avons faite, c'est de décider que nous ne serions pas un bureau d'études, mais une agence. Et ceci a signifié donc une politique assez vigoureuse, disons, d'extension de notre périmètre d'action à tout ce qui touche l'orbite, c'est-à-dire non seulement la fabrication de satellites, mais aussi les stations de poursuite, le calcul d'orbite et la tutelle d'une communauté scientifique à créer.
Donc, des équipes jeunes au début, avec une somme de travail incroyable, oui. Tout est à faire, et un champ de travail qui s'avère être le spatial. Et j'imagine au départ assez peu de moyens, ou en tout cas prouver que vous avez besoin de moyens financiers pour pouvoir développer de nouvelles recherches.
Disons que les moyens financiers étaient modestes, mais nous n'avons jamais eu à nous plaindre. Dans les premières années du CNES, nos demandes ont toujours été satisfaites. Le gouvernement comprenait la logique que je viens de vous exposer, même s'il ne la suivait pas tout à fait. Et donc, ce n'est pas du tout les moyens financiers qui ont été nos limites. Ce qui était nos limites, c'était nos connaissances techniques. Il fallait les acquérir. Et c'était ça qui a été naturellement l'objet de mes soins principaux. Alors, nous avions quelques atouts qui étaient en dehors du CNES. Le premier atout qui était très important, c'était l'existence d'un grand chantier militaire au Sahara, qui s'appelait le Centre Interarmes d'études d'engins spéciaux, qui était à Colombéchard.
En Algérie.
En Algérie, à 500 km au sud d'Oran. En fait, à Colombéchard, on ne tirait pas. C'était une base militaire où il y avait peut-être 2000 personnels. Mais il y avait à 130 km au sud-est, au sud-ouest, dans le désert, une base de lancement que nous avons appelée Amaguir. Et c'est à Amaguir que nous travaillions. C'est-à-dire que nous lancions des fusées sondes d'abord, Puis ensuite, nous avons lancé les satellites Diamant qui avaient été décidés par le gouvernement. Ça, c'était le premier atout. Le second atout, c'était la CEREB, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisme chargé de mettre au point la force de frappe. Ce sont eux qui ont été chargés de mettre au point le lanceur Diamant, et non le CNES. Donc le CNES, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Bien, ce que je viens de vous indiquer, il s'est intéressé à l'orbite. C'est-à-dire que la CEREB, au fond, c'était des artilleurs, ils tiraient une fusée, et une fois qu'ils avaient tiré, eh bien, nous prenions en charge tout ce qui se passait. Les vraies affaires spatiales commençaient à ce moment-là. Ça a été notre philosophie, elle s'est révélée extrêmement fructueuse. Mais il y a eu, naturellement, vous avez compris, qu'il s'est passé immédiatement une question majeure, c'est que le champ de tir, qui était en Algérie, est devenu algérien, en même temps que la naissance du CNES, c'est-à-dire le 1er juillet 62, l'Algérie est devenue indépendante.
Et donc vous avez été, vous, à l'initiative du déplacement de ce champ de tir?
En tant que directeur technique, j'étais obsédé par ce problème. Qu'est-ce qui va se passer quand l'Algérie va être indépendante? Nous n'aurons plus accès au champ de tir. Les Algériens souhaitaient que nous restions. Et plusieurs fois, le préfet algérien local me l'a dit. Il souhaitait que la France reste à Maguire et à Colombéchard. Moi, j'étais tout à fait opposé, parce que pour moi, l'espace, c'est une affaire régalienne et qu'on ne peut pas discuter avec un autre État lorsqu'on veut lancer un satellite. Il faut que ça soit à l'intérieur de son propre État, que toutes les décisions sont prises, et c'est pourquoi il était indispensable de créer un champ de tir sur un terrain national avec un drapeau français flottant dessus. Bon, il n'y avait pas beaucoup de choix. Au début, j'ai proposé la Guyane. On a fait une étude de 14 champs de tir possibles. Et cette étude était dérisoire parce qu'on savait à l'avance que ça serait la Guyane qui serait la meilleure. Et le gouvernement, 1964, dans un conseil interministériel présidé par M. Pompidou, a entériné le choix qui lui a été présenté avec beaucoup d'habileté par le directeur général du CNES, le général Aubinière, mon patron de l'époque, qui en a fait son affaire.
Et donc aujourd'hui, Kourou, le champ de tir de ces fusées, c'est donc l'emplacement du bagne.
Oui, ce qui s'est produit, c'est que quand nous avons regardé la possibilité de nous installer en Guyane, il y avait des avantages très importants en Guyane. Le premier, c'est celui que j'ai indiqué, le drapeau français. Le second, c'est que la Guyane était entièrement vide. C'était un territoire grand comme le Portugal et qui avait 40 000 habitants. Donc, on avait vraiment un espace où on pouvait se déplacer. Et il s'est trouvé qu'il y avait un territoire qui appartenait déjà au gouvernement, le bagne, 120 000 hectares, qui était désaffecté depuis 1947. Il n'y avait plus de bagnards depuis 1947. Un trait de plume nous a donné 120 000 hectares. Il a suffi que le ministre de la Justice, à qui appartenait le bagne, signe le transfert. Je ne sais pas quel ministère, peut-être ça s'appelait le ministère des Affaires Atomiques et Spatiales à l'époque. Toujours est-il que nous sommes trouvés propriétaires d'un grand espace tout de suite.
Alors, venons-en, si vous voulez bien, aux autres temps forts du CNES. Vous avez rapidement parlé de Diamant, l'opération Diamant. Quels seraient les autres temps forts? Alors, j'imagine qu'il y a bien sûr Ariane, et on va y venir aussi.
Oui, avant de parler d'Ariane, on peut tout de même parler de Diamant. Diamant a été un grand succès. En principe, on devait tirer 4 diamants d'Algérie pour effectivement mettre au point ce lanceur. C'est ce qui a été fait, tous les 4 ont réussi.
Donc dans les années 60...
Entre 1965 et 1967. Et puis après cela, le programme Diamant a continué à Kourou. Et nous avons, à ce moment-là, obtenu une mutation très importante qui montrait bien que le CNES n'était plus un bureau d'études mais une agence. Une mutation, disons, de nos responsabilités lorsque nous avons créé une direction des lanceurs. Et que nous avons décidé, avec l'accord du gouvernement bien sûr, que nous allions avoir un développement de lanceurs à l'intérieur du CNES au lieu que ça soit la CEREB. La CEREB est restée au fond militaire et nous avions le programme civil. Alors nous avons commencé par améliorer Diamant. Ça a été ce qu'on appelait le Diamant BP4 qui a été tiré de Guyane avec moins de succès que le précédent puisque sur les 14 tirs au total du Diamant, il y en a eu 2 qui ont échoué à la fin. Mais alors donc, nous ne pouvions pas rester avec Diamant, et d'autant plus qu'en parallèle, il y avait un effort européen qui se produisait. Et cet effort européen, il a été engendré par le général de Gaulle et M. Macmillan en 1962, qui ont décidé d'utiliser comme premier étage d'une grosse fusée une fusée anglaise, la fusée Blue Streak, qui était en réalité en fait une fusée américaine, mais enfin, il y avait une étiquette anglaise. Et pour mettre au point ce gros lanceur, qui s'appelait Europa, le général de Gaulle et M. Macmillan ont décidé de créer une agence spatiale européenne qui s'appelait ELDO. En même temps, je suis navré d'être un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça s'est produit, en même temps, ils ont créé une agence spatiale destinée à faire les satellites uniquement. Alors, il y en avait une qui faisait les lanceurs et l'autre qui faisait les satellites. Lanceur, c'était ELDO, et ceux qui faisaient les satellites, c'était ESRO. Les deux agences ont eu beaucoup de difficultés. ELDO a été un échec total. La fusée Europa avait connu 11 tirs, 11 échecs. Et ESRO, lui-même, qui a été marché un peu mieux, qui a réussi à mettre au point quelques satellites qui ont marché, a eu de grosses difficultés de gestion en permanence. Donc, à la fin des années 70, on se trouvait dans la situation où on avait deux agences spatiales européennes qui ne marchaient pas et une agence française qui marchait pas mal. Alors, il y a eu des négociations qui ont été entreprises et qui ont abouti à la décision de prendre les deux agences spatiales européennes pour n'en faire qu'une seule. Et ça, ça a été ce qui est maintenant l'Agence spatiale européenne,
l'Agence spatiale ESA. ESA, qu'on connaît bien.
C'est ça. Mais en même temps, le président de la République, M. Giscard d'Estaing, a décidé que l'espace n'était pas une affaire nationale, mais ça devait être pour la France une affaire européenne. Il a donc supprimé le programme Diamant et décidé que la France soutiendrait le nouveau programme Ariane à fond.
Et donc c'est ainsi que naît le projet Ariane qui, et vous me l'aviez expliqué avant d'enregistrer cette émission, était une initiative française avec un budget au départ de tiers français, un tiers européen et petit à petit ce budget va s'échelonner à moitié-moitié.
Oui, l'Agence spatiale européenne est un mariage de deux idées. L'idée française qui est d'assurer l'indépendance européenne pour accès à l'espace, c'est-à-dire la fusée Ariane qui permet à l'Europe, disons, effectivement, d'avoir accès à l'espace. Et d'autre part, la philosophie allemande, qui était collaboration avec les États-Unis pour l'homme dans l'espace, et ça a été le projet Space Lab. Mais alors, comme ni la France ni l'Allemagne ne s'entendraient sur l'importance relative de ces deux idées, il a été inventé quelque chose d'excellemment, vraiment très très utile et nouveau, ce qu'on appelait les programmes à la carte. C'est-à-dire que Ariane était payé par les gens qui voulaient bien le payer à raison de ce qu'ils décidaient. Et il y avait un pourcentage. Par exemple, la France payait 66% d'Ariane, l'Allemagne 20%, l'Angleterre 0% et l'Italie 18%.
Oui, parce que j'allais dire 66 et 23, oui. Ça n'avait pas le compte.
Alors, le Space Lab, au contraire, les Allemands payaient 50% et les Français 12%. Et donc, on avait des programmes qui étaient menés par la même agence, mais qui n'étaient pas financés selon la même clé de financement. Et ça, c'est ça le programme à la carte. C'est une carte, vous prenez dans la carte, dans le menu, ce qui vous plaît. Ariane me plaît, je paye les deux tiers. Space-là ne me plaît pas, je l'accepte, mais je ne paye que 12%. C'est ça la force de l'Agence spatiale européenne, c'est que d'une part, elle a un budget dit fixe, qui est intouchable, qui contient en particulier tous les programmes scientifiques, et d'autre part, les programmes à la carte. Et les programmes à la carte, eh bien, ils sont décidés tous les 4 ans, 3 ou 4 ans, par une conférence interministérielle.
Alors, vous parliez donc de projets européens. Un des grands projets européens qui a vu le jour, c'est aussi, donc, ce sont aussi les vols habités, un projet en accord avec les soviétiques.
Oui, comme je vous l'ai indiqué, l'Agence spatiale européenne avait deux grands domaines. D'une part, les lanceurs, avec Ariane, et qui ça a d'abord été Ariane 1 puis Ariane 5, et puis d'autre part un programme de vols habités qui ont été Space Lab et qui sont maintenant la participation européenne à la Station Spatiale Internationale. Et donc notre participation aux vols habités se fait à travers une grande opération internationale où les États-Unis sont les leaders.
Alors, vous parliez de la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, je crois que l'ESA, elle, travaille à fournir des ravitailleurs, je crois,
oui,
pour les vols.
C'est-à-dire que là, il y a des distributions de tâches. La Station Spatiale Internationale est un programme qui a coûté une centaine de milliards de dollars, à peu près 100 milliards. La participation de l'Europe est de l'ordre de 8%, donc de l'ordre de 8 milliards. De même, il y a les Japonais, il y a les Canadiens. Et évidemment, les États-Unis qui fournissent sans doute de l'ordre de grandeur de 90%. Alors, à l'intérieur de ce budget, les nations se répartissent les tâches. Les États-Unis font l'essentiel, puisqu'ils payent les 9 dixièmes. Et puis les Européens, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent.
Effectivement, on l'a bien compris, vous parliez donc de projets européens, c'est avec l'ESA, de projets bilatéraux, par exemple avec les États-Unis que vous venez de citer, aussi l'Inde, hein, en CNES et l'Inde, mais il y a également des projets nationaux. Alors, et ça sera ma dernière question, est-ce que le CNES a encore un avenir sur le plan national ou est-ce que petit à petit, il va être absorbé par des projets européens de grande envergure?
Le CNES a toujours eu 3 modes d'action. Le mode national, qui s'est traduit par diamant, le mode bilatéral, qui s'est traduit par des coopérations, comme par exemple le lancement d'astronautes français par l'Union soviétique, ou des programmes scientifiques très importants comme TOPEX, avec les États-Unis. Et puis un troisième mode, qui est le mode européen. Le mode national est en train de disparaître. On ne voit plus bien ce qu'il peut faire. Déjà, avec M. Giscard d'Estaing, on avait fait disparaître Diamant. Franchement, je ne vois pas très bien ce qui reste du programme national. Il nous reste le bilatéral, mais ce bilatéral, il n'y a pas forcément de raison qu'il ne soit pas placé à l'intérieur d'une structure plus européanisée, où les différentes coopérations bilatérales seraient gérées. Et donc, il me semble que nous devons aller vers une européanisation complète des opérations spatiales françaises.
Donc là, nous fêtons les 50 ans du CNES, mais vous pensez qu'à terme, ça sera donc bientôt le crépuscule du CNES?
Moi, je ne veux pas rester sur cette image, je vais au contraire un peu la modifier. Je citerai Goethe, c'est-à-dire, je dirais, Werden und sterben, c'est-à-dire mourir, c'est renaître.
Eh bien écoutez, Jacques Blamont, nous terminons par cette citation de Goethe. Merci d'être venu nous voir. Et puis je rappelle à nos auditeurs qu'on vous retrouve donc plusieurs fois dans les émissions disponibles sur le site de Canal Académie, notamment sur une émission relative à la formation des professeurs haïtiens via les satellites. C'est un projet que vous avez initié avec l'Académie des sciences et le CNES. Et puis une seconde émission sur la Guyane et sur un nouveau pôle universitaire en Guyane. Merci à vous d'être venu nous voir et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.